Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions à vous demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
Sur France,
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
À Kinshasa, après l'annonce par la CENI de la victoire de Félix Tshisekedi. Une nouvelle page dans l'histoire du pays pour ses partisans.
Regardez, nous n'avons jamais vu ça au Congo, où un président est élu et où le peuple congolais est joyeux.
Je suis très contente parce que Félix a gagné l'élection et j'ai beaucoup apprécié son discours parce qu'il ne s'agissait pas d'un discours de haine, mais de paix.
Vous écoutez Popori Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popori Show, 30 ans déjà.
toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Oui, madame, monsieur, CUT 89,5 FM fête ses 32 ans. Pour bien démarrer l'année, on vous donne rendez-vous dès aujourd'hui et tout au long de l'année. Allez sur notre page Facebook ou encore le site web de CUT 89,5 FM, www.cut.fm. Merci, 32 ans déjà, Popourri Show se renouvelle. Merci du fond du cœur à tous. Les amis, les membres adhérents, les auditeurs, les partenaires qui nous témoignent des marques d'attachement en étant fidèles chaque dimanche. Les chiffres les plus récents de notre page Facebook témoignent d'ailleurs l'intérêt des auditeurs. Plus de 3500 personnes nous ont écoutés récemment. Des internautes, vous à Port-au-Prince, dans d'autres territoires très éloignés. Mille fois, merci. Et un bonjour spécial à tous nos amis qui nous écoutent à Port-au-Prince, à Montréal, Toulouse, Rennes, Québec, Ottawa, l'île Maurice, Togo, Côte d'Ivoire, RDC, République démocratique du Congo, ça bouge là-bas. Et aussi un bonjour spécial à tous nos amis qui sont à Miami Beach, eh oui, au soleil, Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco qui sera des nôtres dès 12h30 aujourd'hui, à ne pas rater. Et oui, vous pouvez nous écouter en direct www.cut.fm où que vous soyez à travers la planète. Cette émission est réalisée aujourd'hui en partenariat avec RFI, TV5, France 24, France Inter. Plusieurs invités partenaires, Festival Jeunesse Ciné Franco du 19 février au 6 mars 2019. Marcel sera des nôtres un peu plus tard pour nous en parler. Monsieur Carole Jolin qui nous écoute sur Internet en direct d'Ottawa. Il est président de l'AFO, l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario. Bonjour Monsieur Jolin, je vous vois. Monsieur Obed, l'ami éditeur en chef et notre nouveau correspondant haïtien. Il est l'éditeur en chef de ce nouveau magazine sur la toile, Info Citoyen. Il sera des nôtres dans quelques minutes. Et Randy Rainbow, qui est Randy Rainbow, qui a trouvé sa place, tenez-vous bien, madame, monsieur, à la Maison Blanche, grâce à Melania. Eh oui, il sera en direct avec le président Donald Trump. Eh oui, à ne pas rater. Ça va barder, vous allez voir. Randy Rainbow, merci d'être là. L'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, production et animation, votre serviteur Eric Adair. Et un bonjour spécial à Sloan Ballant qui passe, tenez-vous bien, son examen pour devenir citoyen canadien. Bravo, félicitations à notre cher bénévole, collaborateur et coproducteur maintenant à CUTFM. Un bonjour spécial hein, à Gilles Marchildon et tous ses étudiants. Et aussi les gens qui sont sur le campus de Toronto, de l'Université de la Cité, le Collège de la Cité plutôt, à Toronto et à Ottawa. Un bonjour spécial, je sais que vous nous écoutez, vous avez envoyé des tweets, mais aussi des messages par courriel que nous répondrons peut-être cette semaine. Et pour nous joindre tout au long de l'émission et gagner des cadeaux, parce que j'ai un beau CD aujourd'hui, de Julie Kim, cette Québécoise franco-ontarienne d'adoption qui a lancé son album au mois d'octobre l'année dernière. Et j'ai un CD aussi, tout plastifié, tout neuf. Si cela vous intéresse et si vous voulez devenir membre ou encore participer à nos émissions dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs au mois de février ou le mois de la francophonie au mois de mars, vous voulez être partenaire, partager vos coups de cœur, vos projets, vos activités, vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm. Et oui, au menu en ce dimanche 13 janvier 2019, francophonie en Ontario, ça bouge. Le gouvernement Ford confirme la fin du financement de l'Université de l'Ontario français. Les derniers soubresauts et scénarios probables, possibles sur la table pour assurer le maintien du projet.
Et on en parlera avec Monsieur Carole Jelin, président de l'AFO. Il sera des nôtres vers 11h30. Et on parlera aussi de ses coups de cœur, coups de gueule de 2018 et peut-être sa vision pour l'avenir de la francophonie en Ontario et au Canada. Est-ce qu'il est optimiste ou pessimiste ? Réplique du maître François Boileau, commissaire au service en français de l'Ontario, au texte « L'Ontario compte-t-il vraiment 600 000 francophones ?» de Charles Castonguay dans le journal Le Devoir. C'était publié le 8 janvier dernier. Et selon M. Carole Jelin, qui ajoute son nom au moulin, l'Ontario compterait plus de 700 000 francophones. Où est-il allé chercher ces chiffres ? Ah oui, ces chiffres. Où est-il allé chercher ces chiffres ? Un chasseur sachant sacher faisait sécher ses chaussettes sur une souche sèche. Voilà, nous allons jouer, jongler avec les mots. Tout au long de l'année. Des personnes non-binaires, qui sont-ils ? Eh bien, ils ne se considèrent ni homme ni femme et ils évitent de consulter un professionnel de la santé en français, en Ontario, à Toronto surtout. Témoignage, d'ailleurs, un très très beau travail de Radio-Canada à Toronto. Pénurie de main-d'œuvre dans la belle province, le Québec. Et oui, croyez-le ou pas, on doit aller chercher des soudeurs, recruter des soudeurs au Nicaragua. Mais est-ce que ces soudeurs du Nicaragua parle le français? C'est la grande question. Et bien sûr, il y aura plusieurs maires de plusieurs villes du Québec qui vont aller tourner, pavaner en France la semaine prochaine dans l'espoir, tenez-vous bien, de convaincre des Français de France de venir au Québec afin de combler l'un des 118 postes actuellement vacants dans la belle province. Intéressant, n'est-ce pas? Et en direct d'Haïti, News Flash en créole, eh oui, créole haïtien, et en français avec notre nouveau correspondant qui nous écoute sur Internet, Obed Lamy. Quel beau nom, Obed Lamy, et éditeur en chef de Info Citoyen. D'ailleurs, allez sur leur site www.infocitoyen.com. Info Citoyen. Bien sûr, en langue créole haïtienne. Analyse des gilets jaunes, de la critique des médias à la passion de l'immédiat. C'est très grave hein, ce qui est en train de se passer, cette haine dévergondée contre nos collègues journalistes, les grands médias en ce moment en France. On en fait le point. Les élections en République démocratique du Congo, RDC, encore beaucoup d'incertitudes après la victoire proclamée de Tshisekedi. Human Rights Watch donne Fayulu vainqueur par 47% des voix. Ce dernier va saisir la Cour constitutionnelle. Mais où va le Congo ? On aura un reportage vers 12h15. Programme d'éducation sexuelle en Ontario, contestation judiciaire. Trois juges de la Cour divisionnaire en délibéré sans arrêter de date pour rendre leur jugement. La dénonciation au centre du recours judiciaire contre le programme d'éducation sexuelle de Mme Wynne, le dernier gouvernement libéral, avant M. Ford, qui conteste justement ce programme d'éducation sexuelle. C'est trop libéral à leur avis. Côté médias, pour la 10e année consécutive, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en France bien sûr, livre ses conclusions sur la représentation de la diversité de la population française à la télévision. Plusieurs rapports qui toujours rapportent les mêmes rengaines, donc pas de changement. Et ici, qu'en est-il au Canada français ? Est-ce que nos médias reflètent-ils la diversité des visages et des accents ? Envoyez-nous votre message, vos commentaires, popourri@cut.fm. Qui sera ou qui seront les vainqueurs, les grands vainqueurs de la prochaine cérémonie des victoires de la musique prévue le 8 février prochain ? Découvrez les artistes nommés pour ce grand rendez-vous annuel de la musique francophone, collaboration spéciale France 2 et France Inter. Important message du CREFO, veuillez noter que la conférence à questions plurilingues à l'école en France présentée par Nathalie Auger qu'on a reçue avec beaucoup de plaisir la semaine dernière sera remplacée par la conférence suivante, échange universitaire politique et mémoire, le projet Red Aid d'Afrique, présentée par Laura Bisaillon. Elle est professeure au Interdisciplinary Center for Health and Society de l'Université de Toronto à Scarborough et au département de Social Justice Education à OISI. C'est prévu toujours pour le mercredi 16 janvier de 17h30 à 19h, Créfaux, Université de Toronto, située à 252 rue Blot-Ouest, salle 12, 105, et au deuxième étage. Et nous avons reçu un message d'un auditeur qui nous écoute régulièrement. Il est français. Il dit, monsieur, j'apprécie votre dévouement pour la francophonie. Je vis à Paris et je vous écoute chaque dimanche. En ce qui concerne les gilets jaunes, les Français sont un peuple paisible, profondément conservateur, qui cède parfois à des pulsions révolutionnaires, imprévisibles et toujours violentes. Merci, cher monsieur. On se parle en live bientôt. J'aimerais bien vous recevoir. Envoyez-nous un message et ne manquez pas notre nouveau collaborateur en direct de la Maison Blanche vers les 11h25. 32 ans déjà, Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Mais avant de passer aux nouvelles, j'aimerais rendre hommage à Madame Tran, une grande amie généreuse et donatrice à notre émission depuis plus de 30 ans. Elle est décédée cette semaine, elle était assez malade. Née à Saigon, au Vietnam, francophone dans l'ombre, elle adorait notre émission et m'offrait d'ailleurs personnellement des fruits tropicaux et des précieux conseils. C'était une perle pour notre équipe. Ses funérailles ont eu lieu vendredi en compagnie de ses proches et de nos amis partenaires et sa famille. Et toute l'équipe souhaite bien sûr sincères condoléances à notre amie Lam, qui est sa fille, qui est toujours amie avec nous. Merci, chère Madame Tran. Ce n'est qu'un au revoir. Les buzz de nos médias partenaires de hashtag ONFR, l'Université de l'Ontario français. Le gouvernement Ford confirme la fin du financement, mais la loi reste en place. Des intervenants francophones déçus, mais pas surpris, alors que la date fatidique du 15 janvier approche à grands pas. La présidente du conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français, Diane Adam, explique que plusieurs scénarios sont sur la table pour assurer le maintien du projet. Quelles sont les chances d'un miracle? On en parle avec Monsieur Carole Jolin, président de la FO, vers 11h30. Depuis plusieurs semaines, la crise a ravivé l'hostilité des franco-ontariens contre les progressistes conservateurs, comme en 1912 avec James Whitney et le règlement 17, puis en 1997 avec Mike Harris, le grand, on s'en souvient, et SOS Montfort, l'hôpital SOS Montfort dans la région d'Ottawa. Les périodes de tensions linguistiques sont a priori sous les gouvernements conservateurs. À défaut de ne pas exister, la mauvaise étoile du parti vis-à-vis des francophones serait tout de même à nuancer, estiment trois politicologues. Un article passionnant à lire, toujours sur le site de hashtag ONFR. Chambardement au ministère des Affaires francophones de l'Ontario, Kelly Burke, la plus haute fonctionnaire chargée exclusivement des dossiers francophones, quitte son poste. Monument de la francophonie de Queen's Park, 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario, projet pilote de justice en français à Ottawa, comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires francophones, Kelly Burke a joué un rôle de premier plan pour donner vie à tous ces projets marquants. Au Québec, pénurie de main-d'œuvre, alors que la pénurie de main-d'œuvre se fait de plus en plus sentir au Québec, un groupe de villes se rendra en France la semaine prochaine dans l'espoir de convaincre des Français de venir occuper l'un des 118 000 postes actuellement vacants dans la province. Mais pourquoi ne pas choisir les francophones de l'Ontario? Centre de la francophonie des Amériques, mauvaise nouvelle. Celui qui a participé à nos projets pendant plusieurs années et après deux mandats tourne la page. Monsieur Denis Desgagnés tourne la page abruptement, hein, d'ailleurs, au centre de la francophonie des Amériques. Réactions variées des franco-ontariens d'origine congolaise après l'élection de Félix Tshisekedi au poste du Premier ministre, au président du RDC. Établi en Ontario depuis plusieurs années, trois Congolais se confient quelques jours après une élection historique à hashtag ONFR. En France, l'acte 9 des Gilets jaunes a réuni hier au moins 85 000 manifestants contre 50 000 samedi dernier. Quelques heurts ont éclaté entre des manifestants et les forces de l'ordre en plusieurs points du territoire et 244 personnes ont été interpellées. Mais d'où vient cette haine contre les médias ? Incroyable. Rédaction assiégée, quotidien empêché de paraître, journaliste agressé en pleine rue depuis deux mois lors de chaque journée de mobilisation des Gilets jaunes. De nouvelles violences sont commises contre les médias et leurs représentants. En France, comme ailleurs, les journalistes ont ainsi d'emblée été jugés trop séviles, peut-être serviles par le public, mais trop libres par le pouvoir politique. On s'en souvient au 19e siècle d'or de la presse écrite, les journalistes ont continué à être comparés à des criminels, à des brigands ou à des filles de joie. Et même Balzac, qui toute sa vie a pourtant dépendu de cette activité, écrit dans sa monographie de la presse parisienne que si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer. Selon un article et des témoignages sur le site de Radio-Canada, il semblerait que les personnes non binaires, c'est-à-dire des personnes qui ne se considèrent ni hommes ni femmes, évitent de consulter un professionnel de la santé en français en Ontario, surtout à Toronto, parce que la nature genrée de la langue ne correspond pas à leur identité. Vincent Mousseau est activiste universitaire et une personne transgenre issue de la communauté francophone de l'Ontario, résidant maintenant à Montréal, qui s'identifie par le pronom neutre, Yel, prétend qu'il est difficile de trouver des services en français adaptés à son identité. C'est tellement difficile qu'il finit par prendre le « il » parce que selon lui, c'est trop compliqué en français. Selon les magazines ou le magazine gay Fugue à Montréal, nos communautés, je cite, « nos communautés doivent dire non à la transphobie. Elles doivent refuser d'exclure les personnes non-binaires ainsi que tout autre sous-groupe marginalisé, dont notamment les personnes trans-migrantes qui ne peuvent toujours pas changer leur certificat de naissance sans la citoyenneté. Le respect du genre des personnes non-binaires est une revendication cruciale à notre bien-être. Nous ne sommes pas de trop. » Fin de citation. Haïti, commémoration 12 janvier 2010, eh oui, une offrande florale à Saint-Christophe en mémoire des victimes. Lettre ouverte à des Haïtiens de la région de Toronto au président haïtien, monsieur président Jovenel Moïse, président d'Haïti. Les signataires de cette lettre conseillent au président Moïse d'être plus prudent dans sa collaboration avec la communauté international et particulièrement dans sa relation avec un monsieur Nicolas Maduro de Venezuela qui a récemment prêté serment pour un second mandat. Dans un instant, justement, nous allons parler à notre nouveau chroniqueur, correspondant, collaborateur haïtien. Eh oui, Haïti en direct avec Obed Lamy, nouveau correspondant. News Flash en créole et en français, en direct d'Haïti avec Obed Lamy, éditeur en chef Info Citoyen. Bonjour cher ami et bonne année à vous.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, bonjour tous les compatriotes haïtiens qui sont dans la communauté Toronto, qui suivent l'émission Toronto.
Allez-y avec votre dépêche et les dernières nouvelles d'Haïti en ce moment.
Alors, après dans Stamboulou, il semble que Haïti part sur un mauvais pied en entrant en l'an 2019, puisque le pays a fait face à une pénurie de produits pétroliers dès le premier week-end de janvier jusqu'au début de cette semaine. En effet, plusieurs stations d'essence sont restées fermées alors que les files de véhicules s'allongeaient dans les rares stations qui en disposaient d'une petite réserve. En Haïti, problème gaz qu'on levait difficile, si nous songeons événement qui s'est passé 6-7 juillet 2018. Là. La situation qui a prévalu cette semaine a donc créé un sentiment de panique autant chez les automobilistes qui gagnent leur vie au quotidien dans le trafic que chez la population qui est largement desservie par le transport en commun. Mais à quoi donc est dû ce problème qui devient presque une tradition du nouvel an dans le pays? Chaque année, à pareille époque, on assiste toujours à une pression sur la gasoline. Les gens qui organisent des fêtes en achètent beaucoup en vue d'alimenter leurs génératrices. Craignant une rareté éventuelle, d'autres en achètent pour aller en revendre sur le marché noir. C'est ce qu'a expliqué dans le quotidien Le Nouvelliste Ignace Saint-Fleur, directeur du Bureau de monétisation d'aide publique au développement, institution publique qui se charge, entre autres, de la distribution des produits pétroliers dans le pays. Mais cette rareté de gaz n'a nullement empêché les lumières du sud de s'allumer. Le coup d'envoi de la deuxième édition de ce festival international de films a été donné mercredi 9 janvier dernier à Jacmel. Jacmel, c'est une belle ville qui charrie toute richesse naturelle et culturelle pays d'Haïti, n'en point pour UNESCO te classé depuis l'année 2014 parmi les villes qui plus créatives dans le monde. Et c'est justement pour faire découvrir les créations des réalisateurs haïtiens que ce festival, dénommé aussi Rencontre cinématographique de Jacmel, propose des ateliers, des tables rondes et des projections de films. Parmi ceux qui étaient à l'affiche, Naissance d'une diaspora, yon documentaire célèbre réalisateur haïtien, Richard Sénécal sorti année sa même pour raconter la vie haïtienne qui immigrait à vivre dans le pays Chili. Mais pas seulement, avec pour thème l'Afrique dans tous ses états, le festival Les Lumières du Sud offre une place de choix au cinéma africain en appelant le cinéaste malien Souleymane Cissé comme invité d'honneur. C'est un choix, faut-il le souligner, qui donne une dimension politique à cet événement, si l'on comprend bien les propos de la réalisatrice haïtienne Getty Félin, chef d'orchestre du festival. Nous avons envie de voir des images qui nous ressemblent, de nous focaliser sur le Sud dans sa globalité, sur les pays en voie de développement, les pays qui ont des expériences et des vécus comme les nôtres, avec des soucis politiques, sociaux, culturels qui nous ressemblent enfin. Mais sauf que, entre les dirigeants des pays du Sud, les relations ne s'accordent pas toujours. Ce jeudi, en effet, Haïti s'est associé à 18 autres pays pour voter en faveur d'une résolution de l'OEA qui ne reconnaît pas la légitimité de Nicolas Maduro, fraîchement élu à la présidence du Venezuela pour un deuxième mandat. Cette nouvelle a donc créé une vive polémique sur les réseaux sociaux en Haïti, au point que des citoyens ont lancé une pétition en ligne pour se désolidariser de ce vote d'Haïti contre le Venezuela. Proverbe créole a dit, c'est l'or dans malais pour qu'on si ou bien bons amis. À travers l'histoire, les deux pays, Haïti et Venezuela, ont toujours développé une relation de fraternité et de solidarité réciproque. Dès 1815, Haïti a apporté son soutien économique et militaire au Venezuela pour l'aider à conquérir son indépendance de la colonisation espagnole. Et tout récemment, depuis 2007, le Venezuela a octroyé un prêt qui aura totalisé au fil des ans plus de 3 milliards de dollars à Haïti pour financer des projets de développement dans le cadre du fameux programme Petro-Caribé. Mais, journée aujourd'hui, il est toujours difficile pour remarquer qui ça qui réalisé en Haïti avec toute l'argent ça. Plusieurs gouvernements qui t'ont dirigé pays a dépensé pendant 10 dernières années ça. Et c'est pour dénoncer corruption à gaspillage l'agence ça qui fait depuis l'année passée en plus citoyens a manifesté pour demander Côte Corp Petro-Caribéa. C'était Haïti en direct avec Robert Lamy, correspondant de Popouri Show sur toute FM 89.5 depuis Toronto.
Eh ben merci en pile, mon cher ami. Bonne année, j'espère que ça s'est bien déroulé pour le début de 2019. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités culturelles qui se passent et je suis convaincu que notre ami qui est actuellement à Miami, Marceline, fondatrice de Ciné Franco, va adorer ce que vous avez dit et peut-être un jour, qui sait, on se déplacera chez vous en Haïti pour aller faire un festival de cinéma. Qui sait? Oui. Allez, merci en pile encore et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
CIO. CKUT 89.5 Toronto.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Eh oui, merci à Reflet Salvéo. Now, live from the White House avec Randy Rainbow en compagnie de Donald Trump.
I don't know, I've always had controversy in my life and I've always succeeded, I've always won.
Well, some say you're about to win, most likely to get impeached.
I'll tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash.
If you ever got impeached?
I think everybody would be very poor.
Why, if you ever got impeached, you would...
You would probably start crying, then rehash all the lying and rhetoric you've preached. All the Dems would be smirking, Jim Acosta would start twerking if you ever got impeached.
If I ever got impeached...
You could just give in to Mueller, then go and get some color by lying on a beach. This is all natural, right? With the crimes you've been fixing, you could be another Nixon if you only got impeached.
I think the market would crash.
You'd be through and take with you our worries and our strife. You'd return to only burdening your wife. And we'd resume a normal life. Find a lawyer, 'cause you'll need one. Write a book or learn to read one. Or get your eyebrows bleached, 'cause... Just relax at the spa, go fuck yourself at Mar-a-Lago if you get impeached.
I don't know how you can impeach somebody who's done a great job.
You'd be more than implicated for laws you violated and protocols you breached.
Because without this thinking...
We could finally all stop drinking if you ever got impeached.
I think everybody would be very poor.
We would dance and sing and revel. No one else has hit the level of infamy you've reached. Giuliani could retire. Pence could join a gay men's choir if you ever get impeached.
The president did nothing wrong.
When you flee, take Huckabee. And finally I'll be calm. I'd ask Michael Avenatti to the prom. And Kellyanne could move to Guam. More than half the country's waiting, so think about the ratings. 'Cause when you gave your speech, we would all tune in to listen. You could finally go to prison.
I'm not involved. I wasn't charged with anything.
If you ever got impeached.
Ça tourne pour moi quand tu veux.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI. RFI.
RFI.
RFI.
RFI, la radio du monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, les célébrations de notre 32e anniversaire, la présence de la radio, la présence de la voix francophone à l'Université de Toronto, le campus, mais aussi dans le monde, démarre ce dimanche. Et mardi particulièrement, allez sur notre site immédiatement www.cut.fm, www.cut.fm pour avoir tous les renseignements. Merci mille fois, merci à tous les donateurs, nos amis, partenaires et les invités d'aujourd'hui et de l'année 2018. Et oui, alors que la date fatidique du 15 janvier approche à grands pas, la présidente du conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français, Diane Adam, explique que plusieurs scénarios sont sur la table pour assurer le maintien du projet. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a de nouveau pressé le gouvernement de l'Ontario, Doug Ford, d'agir pour sauver l'institution franco-ontarienne. La FAO demande au gouvernement de l'Ontario de déposer tout de suite une demande de financement au gouvernement du Canada et d'assurer la rétention du personnel de l'université, parce qu'après le 15 janvier, c'est foutu, c'est fini. Eh oui, dans cette... avez-vous vu quelque chose dans votre boule de cristal? Ah, hein? Eh oui, sans cette intervention, l'Université de l'Ontario français ne sera qu'un conseil des gouverneurs, sans université, sans employés, sans artisans. Eh oui, monsieur Carole Jelin est très attristé. Mais est-ce qu'il est pessimiste, optimiste pour ce projet, mais aussi pour l'avenir des franco-ontariens et des francophones du Canada? Parce que ça s'annonce mal. Il y a plusieurs élections, plusieurs enjeux. Ah, nous avons le plaisir de l'accueillir d'ailleurs pour la première fois cette année, hein, le président de la FAO. Et oui, ils sont plus de 3500 personnes sur Facebook qui nous écoutent. Première intervention pour 2019. Bonne année, monsieur Carole Jelin, et merci d'être des nôtres aujourd'hui. Ça va?
Oui, bonjour, bonne année à vous.
Vous avez bien démarré l'année d'un bon pied et d'un bon œil?
Oui, ça a été très tranquille, du moins jusqu'à ce que les activités reprennent la semaine dernière. Et oui. Puis là, la balle est repartie.
Oui, alors on vous a beaucoup vu pavaner, pavoiser. Vous avez fait des alliances qu'on n'a jamais fait avec d'autres provinces de la planète ou du Canada. Et c'était une grande journée de mobilisation, de résistance, avec succès, je pense, hein, le 1er décembre 2018.
Oui, ça a été un grand succès. On avait 38 sites en Ontario où est-ce que les gens étaient devant les bureaux des députés et des ministres du Parti conservateur. Et puis de ça, le dossier comme tel a débordé de ce que du fait qu'on parlait du commissariat aux services en français ou qu'on parlait de l'Université de l'Ontario français. C'est devenu une attaque aux droits linguistiques, et ce qui fait que les autres provinces canadiennes ont tenu également des manifestations le 1er décembre, et puis ça a été un appui extrêmement important partout au Canada, notamment du côté du Québec, où est-ce que même j'ai donné de nombreuses entrevues, et puis le fait que c'est devenu un sujet d'actualité au Québec a permis qu'on ait 4 personnes des nôtres qui participent à l'émission Tout le monde en parle. Donc ça, c'est un pas extrêmement important. Et puis là, je pense que pas mal tout le monde au Québec est au courant qu'il y a des communautés francophones un petit peu partout au Canada qui sont vibrantes et qui se débattent pour faire valoir leurs droits.
À part Mme Denise Bombardier. D'ailleurs, je demande aux gens de nous financer pour mettre un mur entre Mme Bombardier et les francophones hors Québec. Enfin, dans quelques jours, le financement provincial du gouvernement de l'Ontario va prendre fin. financement pour l'Université de l'Ontario français. Il y a beaucoup de francophones, de professeurs, de CREFO, d'Université de Toronto et d'ailleurs qui nous écoutent, qui nous envoyaient des messages tout au long de la semaine, qui sont impatients d'entendre vos plans d'action, vos plans d'attaque. Où en êtes-vous?
Ben pour une question de plan d'attaque, là, c'est de voir, il y a du financement jusqu'à mardi. Madame Adam a déjà mentionné qu'il y avait plusieurs scénarios qui étaient envisagés pour pouvoir continuer avec l'équipe d'employés qui travaillent à la mise sur pied de l'Université de l'Ontario français. Donc ça, je désespère pas qu'il y ait une solution qui soit trouvée à ce niveau-là, mais nous, on n'est pas assez, on ne participe pas à ces discussions-là. De notre côté, ce qu'on a fait, et ce que j'ai fait dans plusieurs entrevues d'ailleurs, c'est de continuer à mettre de la pression sur le gouvernement, parce que la solution, elle n'est pas tellement difficile à trouver. On sait que le gouvernement fédéral est prêt à financer 50% du dossier de l'Université de l'Ontario français, comme il l'a fait dans d'autres projets comme le Collège Boréal, la Cité collégiale à Ottawa ou encore le Collège Saint-Jean en Alberta. Et qui est prêt à mettre ce financement-là pour les 4 premières années du dossier. Donc ça permettrait, un, à la province de travailler sur l'équilibre budgétaire, qui est leur priorité, une des raisons pour laquelle ils ont été élus. C'était un point important de leur campagne électorale. Et de ça, de prendre la relève du financement pour les années 5, 6, 7 et 8. Donc c'est une solution qui serait gagnant-gagnant à tout point de vue, mais la province doit faire demande au fédéral pour aller chercher ces fonds-là. Ce n'est pas le fédéral qui va s'imposer. Et il doit y avoir une négociation pour s'assurer justement qu'il y a une entente Canada-Ontario qui lie les deux parties pour le financement de l'université. Donc la solution, elle est là. Mais la province doit faire la demande.
Est-ce que la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, participe à ces débats, ces discussions?
Je suis à peu près certain que oui. Je n'ai pas de confirmation de ça. Les rencontres, les discussions qu'ils ont eues, je présume, ont eu lieu entre Mme Fullerton au ministère des collèges et de la formation et avec la ministre des Affaires francophones. Mais je n'ai pas de confirmation à cet effet-là. Nous, on ne participe pas à ces discussions-là.
Mmh. Êtes-vous optimiste ou pessimiste?
Je dirais un optimisme modéré. Ça fait longtemps qu'on voit venir la date du 15 janvier. Ça fait déjà un bon moment qu'on la connaît. Maintenant, quand c'est question de bouger de l'argent au niveau des gouvernements, c'est jamais quelque chose qui va rapidement. Et c'est toujours fait à la dernière minute parce qu'il faut voir comment l'argent ne transige pas tout simplement sur un chèque. Et puis, j'espère tout de même qu'on va trouver une solution. Madame Adam a parlé de plusieurs scénarios qui sont possibles. Donc, j'espère qu'il y en a un qu'on pourra mettre de l'avant et faire en sorte que l'équipe de l'université puisse continuer à travailler après le 15 janvier.
Comment combattre tous ces articles négatifs contre les franco-ontariens dans les réseaux sociaux? Surtout, on a vu un article la semaine dernière, je pense, dans le quotidien d'Ottawa, un des quotidiens d'Ottawa, et qui fait l'affaire de M. Ford en disant que ça coûte cher, il a bien fait, il avait raison de couper le financement de cette nouvelle université. Vous avez vu sans doute cet article, hein?
Oui, j'ai vu l'article en question, puis c'est de bonne guerre que chacun des partis essaie de pousser les articles dans les journaux. Maintenant, ceci étant dit, quand on parle de financement, il y avait tellement de choses que j'aurais pu répondre à ça, parce que c'est pas les occasions qui manquaient dans cet article-là. Mais si on parle de financement et tout, ben le dossier de l'université financier, ça représente 0.1% du budget des collèges et du ministère des collèges et de la formation. Donc, c'est pas qu'on demande la lune, là. On parle pas d'une université qui va accueillir 45 000 étudiants. À Toronto, dans les plans, c'est de pouvoir commencer avec 300 étudiants et graduellement de pouvoir offrir plus de programmes et de ça en arriver peut-être après 7-8 ans d'avoir quelques milliers d'étudiants. Donc, quand on parle de ces sommes-là qui sont avancées, ça peut paraître énorme pour nous autres dans notre quotidien, mais quand on parle de sous-investis au niveau du gouvernement dans des projets comme l'éducation, mais à ce moment-là, ça paraît plus aussi gros et la facture ne paraît pas aussi importante et peut va rapporter, parce que le fait d'avoir une université dans un milieu, ça a un impact économique. Et si je me fie simplement à l'accueil que les gens d'affaires dans la basile de Toronto, dans la région des distilleries. On fait au Collège Boréal, qui va s'installer là en 2020. Les gens d'affaires sont extrêmement excités de voir le Collège Boréal se déplacer dans cette région-là, très touristique en été, mais qui devient très, très, très tranquille une fois que l'automne arrive jusqu'au printemps. Et puis, donc, retombée économique importante. Et il faut voir également le besoin pour la communauté francophone et anglophone d'avoir des options du côté en français. Parce qu'on sait qu'on a, dans le centre-sud-ouest et dans le Grand Toronto, on a quelques 40 écoles secondaires. Et quand les jeunes graduent, les options sont très minimes. Ils ont accès à 3% des programmes qui sont offerts en français en province. Donc, il y a un besoin énorme de ce côté-là. Et à Toronto, il y a quelques 150 000 jeunes qui sont inscrits dans des cours d'immersion. Plusieurs poursuivent l'immersion au niveau secondaire et encore là, auraient l'option à ce moment-là de pouvoir continuer à prendre des cours universitaires en français. Donc, c'est pas simplement pour la question uniquement des francophones, mais de tous les anglophones qui ont fait qui ont poursuivi un cheminement en français à leur école élémentaire et secondaire en immersion et de pouvoir avoir cette option-là de continuer en français.
Avec tout le respect que je dois à tous ces membres courageux d'ailleurs qui siègent au conseil des gouverneurs de cette nouvelle université, y compris M. Labry que je connais bien, Mme Adam, vous-même, ce que je déplore, on n'a pas eu assez de temps pour articuler la différence et peut-être ce qui rend cette université, une nouvelle université, unique et distincte des autres universités qui existent. Parce qu'il y a un amalgame dans l'opinion publique, y compris chez beaucoup de mes amis et auditeurs francophones, qui suit ce dossier de très près et qui vous appuie, hein, qui vous supporte. Ça, il n'y a pas de crainte. Mais ils n'arrivent pas à comment séparer, si vous voulez, voir quelle est la différence entre cette nouvelle université, qu'est-ce que ça va offrir comme programme qu'ils ne pourront pas avoir nécessairement dans les autres universités, y compris Glendon, l'Université de Toronto, d'Ottawa et Laurentienne à Sudbury. Vous ne pensez pas qu'il y a eu peut-être un manque d'informations à ce niveau-là?
Peut-être. Je peux dire que ça a bougé à la minute que l'annonce a été faite le 15 novembre. Je peux dire que ça a bougé énormément et énormément vite dans nos bureaux et toute la machine qu'on a mis en place pour pouvoir justement se rendre à la manifestation du 1er décembre et après ça de maintenir le dossier tant au plan politique que de pouvoir garder nos gens informés. Maintenant, de plus en plus, on met l'accent sur cet élément-là où est-ce que de dire que premièrement, les gens veulent étudier dans leur région autant que possible. Donc, c'est pour ça qu'on a peu de jeunes du Grand Toronto ou du centre-sud-ouest qui vont venir poursuivre des cours en français à Ottawa ou à Sudbury dans les universités bilingues. Et ça, tout en n'ayant pas la garantie qu'ils vont pouvoir poursuivre toutes leurs études en français. Et ça, c'est une problématique. Mm-hmm. Et j'ai connu personnellement des jeunes de la région de Windsor qui ont pris la peine de déménager à Ottawa, qui ont eu leur cours en français pendant la première année, puis après ça, les trois autres années ont été en anglais. Et quant à Glendon offre des programmes, mais le nombre de programmes est très, très limité. Alors que ce qu'on veut faire à l'Université de l'Ontario français, c'est un, quand les jeunes vont s'inscrire à un cours, ils vont pouvoir le suivre d'un bout à l'autre en français. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a quatre programmes très innovateurs qui ont été mis sur pied. Et il y a sept autres programmes sur lesquels on est en train de travailler, que l'équipe de l'Université travaillait justement en partenariat pour pouvoir offrir des cours qui répondent aux besoins du marché à Toronto. Je pense, par exemple, commerce, publicité, marketing, au niveau des soins infirmiers, au niveau de l'enseignement. Donc, ce sont des exemples de partenariat qui est en train de s'établir avec les universités bilingues un petit peu partout en province pour pouvoir offrir ces cours-là, mais totalement en français à Toronto.
Alors, vous encouragez toujours les citoyens, citoyennes de l'Ontario à manifester? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de pression qui s'annoncent?
On en avait un qui s'est déroulé cette semaine où est-ce que les gens qui avaient joint la résistance, puis il est toujours pas trop tard pour le faire, vous pouvez joindre la résistance à laresistance.ca ou à monassemblée.ca. Et puis de ça, pour vous garder au courant justement de l'évolution du dossier et des démarches qui sont entreprises par l'équipe de l'AFO Et qu'est-ce qu'on va faire avec la résistance? C'est comment on, vous pouvez aider à ce moment-là. Donc, les cartes postales, ça s'est déroulé cette semaine. Il y a quelque 2000 cartes postales qui ont été envoyées aux députés et ministres du Parti conservateur, les enjoignant de prendre des bonnes résolutions pour l'année 2019. Et puis, demain, nous avons une grosse rencontre, rencontre importante de notre organisation au niveau de la mobilisation. Et puis là, on a toute une liste de démarches possibles pour maintenir la pression sur le gouvernement. Et on va établir un calendrier précis de ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Mon invité aujourd'hui, Madame, Monsieur, Carole Jolin, président de l'AFO, www.monassemblée.ca. Vous pourrez avoir tous les détails et devenir membre aussi. Alors, il y a quelque chose de très marrant que j'ai lu cette semaine. C'était un article de Charles Castonguay, publié le 8 janvier dernier dans le journal Le Devoir. Et l'Ontario compte-t-il vraiment 600 000 francophones? Il mettait en doute, finalement, le nombre de franco-ontariens. Et là, il y a eu une réplique cinglante hein, de maître François Boileau, commissaire actuel, toujours, au service, à la commission des services en français de l'Ontario. Et vous, vous, pour mettre de l'eau au moulin, comme on dit, vous avez publié un article aussi, d'ailleurs, c'est sur hashtag ONFR, qui dit que Vous avez des chiffres nouveaux. Nous sommes 744 000 plutôt que 600 000. Où avez-vous trouvé ces chiffres, M. Jolin?
Premièrement, ce sont des chiffres qui viennent de la modification à la loi sur les langues officielles. C'est des modifications qui ont eu lieu tout juste avant les fêtes, où est-ce qu'on a modifié la façon d'évaluer le nombre de francophones. Et pour ça, ça vient du gouvernement fédéral et de Statistique Canada à qui on demande de faire ce travail-là pour avoir un meilleur portrait de la communauté. Et de ça, ces résultats-là ont été communiqués à la Fédération des communautés francophones et acadiennes dans un brefage quelques temps avant les fêtes. Et on a adopté cette façon d'évaluer les gens qui parlent français en Ontario.
Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres réactions quand ces chiffres sont sortis? Parce que moi, c'est une première. Hein. Je sais que à l'époque, il y avait une ministre des Affaires francophones qui avait modifié un peu sur la définition des franco-ontariens et ça avait donné chance à inclure beaucoup de personnes qui ont le français comme deuxième ou troisième langue. Mais là, j'étais pas au courant de ce nouveau chiffre. Alors, il faudrait peut-être rendre ça plus public, divulguer ces chiffres à tous les élus de la province?
Bien, l'article de ONFR était un pas dans la bonne direction. Le 1er décembre, lors de la manifestation à Ottawa, j'ai utilisé ce nombre-là pour identifier le nombre de franco-ontariennes et franco-ontariens de par la définition élargie qui a été donnée par le gouvernement fédéral. Et puis, on va continuer à le faire. C'est maintenant le nombre qu'on va avoir dans nos communications lorsque on va donner des entrevues au niveau public, par exemple, ou encore lorsqu'on va être en train de discuter avec le gouvernement.
D'ailleurs, je ne conteste en aucune façon ces nouveaux chiffres. Je trouve, au contraire, qu'il faut avoir une stratégie magique pour 2019 et les années à venir si on veut continuer à vivre en français au Canada, en Ontario, parce que Monsieur Jolin, avec encore une fois tout le respect que je dois à votre équipe, on ne fait pas assez pour rendre visible notre présence dans cette province. Il y a beaucoup de gens qui parlent le français, qui aiment le français, qui ne sont pas nécessairement franco-ontariens comme on le définit, mais qui ne connaissent pas encore nos communautés. À chaque dimanche, tenez-vous bien, je découvre des nouveaux auditeurs qui parlent français ou des francophiles qui sont nos alliés. Et ces gens ne connaissent pas l'AFO, ne connaissent pas l'ACFO, ne connaissent pas les autres grandes associations franco-ontariennes de la province. Comment faire justement pour aller chercher, dénicher ces gens et les rendre, les inviter à faire partie de la grande famille franco-ontarienne?
Je pense que premièrement, un événement comme celui qu'on a vécu depuis le 15 novembre est un événement mobilisateur et puis qui amène la francophonie à une grande solidarité. Et puis ça, on l'a vu partout en Ontario et au Canada. Et puis ça, on dirait qu'on a besoin d'une crise comme ça à l'occasion là, pour rallier les troupes.
Ben oui, regardez, il y a même des Québécois qui ne savaient pas, hein? qu'il y avait des francophones en Ontario. C'est à travers cette crise que tout de suite, j'ai des amis que je connais depuis très très longtemps, ils m'ont dit « Ah, on ne savait pas qu'il y avait une commission, on ne savait pas qu'il y avait une université, on ne savait pas qu'il y avait... » Mais c'est incroyable!
Exactement. Et puis là, ben justement, je pense que les gens sont pas mal au courant. On va commencer à remercier Mme Bombardier qui a lancé la balle. Et puis M. Ford qui a mis de l'huile sur le feu qui avait déjà été allumé. Maintenant, ceci étant dit, nous, à la fois, à travers les tables de concertation qu'on a, qui se rencontrent régulièrement dans chaque région de l'Ontario, on invite les organisations communautaires à se joindre à notre table. Et puis ça, pour justement qu'on ait cette concertation-là ensemble et que tous les gens, justement, soient impliqués. À travers la résistance, on a plus de, je pense qu'on est rendu à 16 000 ou 17 000 personnes qui ont signé la résistance. Donc, de ça, ils se gardent au courant de ce qui se passe. Et ça, de toute, dans la grande communauté francophone élargie de l'Ontario, avec francophiles inclus. Et de ça, c'est extrêmement bon signe. Puis ce qu'on a demandé aux gens avant les fêtes, puis vous parliez de visibilité, on a demandé aux gens de s'afficher en français, de mettre des drapeaux franco-ontariens dans leur fenêtre, dans la fenêtre de leur auto. Et puis j'ai été vraiment agréablement surpris de voir pendant les fêtes sur les médias sociaux les cadeaux qui ont été offerts.
Il y a beaucoup d'artisans. Et est-ce que, justement, il y a un petit gilet vert, blanc, blanc-vert qui s'annonce? Parce que nous avons les gilets jaunes en France. Est-ce qu'ici, on ne pourrait pas avoir les gilets...
C'est un gilet noir avec un logo qui a été mis ensemble par la compagnie Anteca. Je pense qu'elle a près de 1000 gilets de vendus. Et puis, comme je le disais, sur les médias sociaux, on a vu des écharpes, des sucres, des pantoufles, des mitaines.
Il y a les artistes aussi. On a eu des chansons, des artistes qui ont mobilisé. Alors,
Mélissa Ouimet a adapté une de ses chansons justement à la résistance. Donc, vraiment agréable de voir tout ce qui s'est fait dans ce sens-là, justement, pour développer et amener cet élément de solidarité-là dans la francophonie.
Alors, on sait qu'il y a des élections générales au niveau fédéral. On sait aussi qu'il y a d'autres élections en Alberta, l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve et Labrador, ainsi que dans les territoires du Nord-Ouest. Et les électeurs seront appelés aux urnes. Pour les communautés francophones, avec les récents changements de gouvernement observés en Ontario, au Nouveau-Brunswick, il y a une crainte, il faut bien admettre, pour les droits des francophones.
Effectivement, il y a une crainte quand on sait que la balance du pouvoir au Nouveau-Brunswick appartient à un parti qui a élu 3 députés, mais que une des principales priorités de ce parti-là, c'est de faire disparaître le bilinguisme de la province. Donc, c'est officiel que on suit le dossier de très, très près au niveau de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. On va appuyer nos collègues là-bas et puis on va s'assurer justement de mettre de la pression sur le gouvernement. D'ailleurs, le seul francophone qui était élu au gouvernement, le seul acadien qui était élu, avant les fêtes, a rencontré son premier ministre et a dit ben si on est pour si comme gouvernement, on est pour passer par-dessus les droits linguistiques, moi, je suis prêt à laisser ma place. Et puis, le premier ministre l'a rassuré qu'il n'avait pas l'intention d'aller là. Maintenant, il va falloir être vigilant.
En tout cas, il y a beaucoup de pain sur la planche, comme on dit. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Vous faites un travail de titan. On sait que ce n'est pas facile. J'espère que les gens en 2019 et les années à venir vont être actifs et non passifs et vont justement s'engager un peu plus pour la défense de leur langue, parce que des fois, on prend pour acquis que tout est facile, parce qu'on vit au Canada, nos libertés sont respectées, et là, ce qu'on a vécu l'année dernière, on a eu une leçon. Je pense qu'avec Montfort, qu'il ne faut pas oublier, c'est un autre exemple récent pour les gens qui sont ici, mais pour les nouveaux immigrants, pour tous ceux et celles, les personnes binaires, tous les gens de la communauté LGBT, il faut leur faire une place dans nos sociétés, nos associations, nos débats, pour qu'il y ait justement un plus grand nombre et que cette diversité enrichisse le débat et démontre aux détracteurs, aux gouvernements qui veulent couper les services en français. Il y a aussi un grand écrivain récemment que j'ai vu en Ontario qui a dit dans les réseaux sociaux que Pour l'AFO, il faut faire pression pour que les gens ou la promotion des services en français afin de demander aux gens d'exiger des services en français dans tous les domaines, dans les régions désignées. Et c'est à travers cette stratégie que les gouvernements vont peut-être reconnaître qu'il y a un vrai besoin. Parce que quand les gens réclament des services et qu'ils n'en trouvent pas, eh ben, ils émettent des plaintes et que peut-être ça va faire réfléchir nos gouvernants. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui, mais des fois, les gens n'exigent pas assez de services en français.
Je suis entièrement d'accord. On parle au niveau des services gouvernementaux, voilà, et autres, même au niveau des commerces, de faire de l'offre active, mais il faut que les gens soient prêts à faire de la demande active.
Ah, exactement.
Et ça, c'est l'élément important.
Écoutez, je vous souhaite une très bonne année, M. Carole Jolin, président de l'AFO. Nous sommes de tout cœur avec vous. Le micro est toujours ouvert et sera ouvert. On est dans notre 32e année ici à l'antenne. Ça fait 32 ans que cette radio existe. Ça fait 32 ans que cette émission, la seule, l'unique émission en langue française, existe. Donc, si vous avez besoin de nous, parce qu'ils sont plus de 3500 personnes, hein, des fois, qui nous écoutent sur Facebook. C'est quand même un nombre.
Ouais, vraiment super.
Alors, donc, je vous souhaite encore une fois bonne année et bonne chance à toute votre équipe et je vous souhaite tous nos encouragements pour 2019.
Merci. Bonne année à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Une chanson pour combattre l'homophobie. Une chanson dédiée à tous ceux et celles.
Demain je serai déjà loin. Je disparais mais je n'oublie rien. Je n'oublie rien. Je laisse ma vie derrière moi. En quelques secondes, tout s'en va. Tout s'en va. De l'amour
à chaque instant et chaque jour.
De l'amour
sans limite et sans retour.
De l'amour, celui qu'on peut vivre en grand jour. De l'amour, de l'amour.
Bonjour.
De l'amour, de l'amour,
de l'amour.
Je marche enfin dans Paris. Je n'ai plus peur d'être qui je suis. Qui je suis.
Je m'inquiète pour mes amis. Sont perdus dans mon pays.
Mon pays. De l'amour à chaque instant et chaque jour.
De l'amour.
Oh, quelle belle chanson, hein. Si vous souhaitez organiser une émission contre, pour combattre l'homophobie ou toutes sortes de sexisme, vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm. À ne pas oublier, madame, monsieur, dans la deuxième heure, nous allons faire le point sur les gagnants potentiels, les nominés des victoires de la musique qui sera prévue d'ailleurs le 8 février prochain à Paris, bien sûr, cela vous intéresse. Et nous allons aussi parler des résultats des brouhahas qui se déroulent en ce moment en République démocratique du Congo, avec un correspondant et bien sûr Ciné Jeunesse. Si vous êtes jeune, francophone, vous êtes professeur, enseignant dans les écoles, vous aurez peut-être intérêt à écouter la fondatrice de Ciné Franco qui est sur une plage et qui va nous donner tous les indices et les renseignements importants, nécessaires pour le prochain festival qui démarre au mois de février jusqu'au 6 mars prochain dès 12h30. Popourri Show, 32 ans des gens. Eh oui, 32 ans, allez sur notre site pour avoir tous les renseignements, les activités qui s'en viennent. www.cut.fm. Merci d'être là.
Sur quelle planète suis-je tombé?
La planète Terre. Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5, Toronto.
Soyez les bienvenus, c'est le journal de Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous. Et à la une, la RDC qui s'achemine vers une inédite cohabitation. Si les résultats des scrutins du 30 décembre se confirment, le clan du président sortant Joseph Kabila conserve la majorité à l'Assemblée, comme celui du président proclamé Félix Tshisekedi ne rassemble qu'une cinquantaine d'élus. Donald Trump, rouge de colère, déchaîné contre James Comey, l'ex-patron du FBI, après des révélations du New York Times où l'on apprend que la police fédérale a ouvert une enquête contre le président pour savoir si celui-ci a agi pour le compte de la Russie. Dans l'actualité aussi, le regain de motivation des Gilets jaunes, acte 9 mobilisateur, 84 000 personnes hier dans les rues de France, à 3 jours du grand débat national. Les Serbes aussi manifestent contre le pouvoir en place, on va y revenir. Et puis, le don d'organes en France, il est en baisse, une première en 8 ans. L'inversion des courbes en République démocratique du Congo. Les élections du 30 décembre continuent de livrer des résultats hors normes. S'ils sont confirmés, le pays s'achemine vers une cohabitation sans précédent entre un président issu de l'opposition et le pouvoir sortant qui garde la majorité au Parlement. Le FCC du clan Kabila, qui n'avait recueilli qu'un quart des voix à la présidentielle, rafle les 3/4 des sièges dans les différentes assemblées nationales et provinciales. Conformément à la Constitution, le président proclamé Félix Tshisekedi devra alors choisir son premier ministre au sein de la majorité du Parlement, sa coalition ne totalisant à ce stade que 49 députés. Ainsi, c'est une période de négociation mais aussi de contestation qui va s'ouvrir, Sonia Rollet.
D'abord, RFI, la radio mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
À chaque check-up, ça ne va pas mieux. C'est la carte vermeille, la retraite, je suis vieux. Les pouces blanches, analyse ma piste. Teste ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent envers leur style de malieu. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud d'un bago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. Je venais d'après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi, je veux que je fasse du jogging, à rapper des années avec du bodybuilding. Mettre de l'antiride à la graisse, forcing, fast clean. Avec feeling et lifting, ça sonne faux. Je veux le peu la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne. Vers le son automne, vers le son automne.
MC Solar, Sonoton et Ekassot, c'était Victoire de la Musique 2018. MC Solar était nommé dans la catégorie Album de Chanson.
De toutes mes lèvres, pour devenir celui qui gambade dans l'herbe, je lève ma main gauche et déclare avec verve être prêt. Pour la face ou l'envers, pacte avec Dieu ou pacte avec l'enfer, je veux l'élixir, la luxure, le luxe d'être permanent comme le clan Klux Klux. Toi, viens à moi, tu deviendras explosif comme les flammes. Agenouille-toi et regarde vers le bas. Vers le sonoton, vers le sonoton, vers le sonoton. Vers le sonoton. Sonoton, sonoton. Vers le sonoton.
Et oui, qui sera grand vainqueur aux prochaines Victoires de la Musique 2019, on en parle et on va passer des extraits bien sûr des gagnants de 2018. Ne partez pas, restez des nôtres. palpitant cette émission. On va bien sûr vous donner nos pronostics, mais aussi les nominer pour la prochaine fête de la musique mondiale, parce qu'il y a des artistes de toute origine. Et on parlera aussi peut-être d'une Miss Algérie qui a reçu des menaces de mort juste à cause de la couleur de sa peau. Est-ce possible? Vivre en Algérie et être un peu basané, bronzé, c'est un grand risque. Alors, mes amis algériens de la région de Toronto, répondez, doit-on menacer de mort une Miss Algérie juste parce qu'elle est un peu bronzée? C'est pas croyable. Eh oui, nous allons faire un saut maintenant en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup, beaucoup de nos amis congolais qui nous écoutent dans la région d'Ottawa, de Toronto, de la région de Hamilton. Bonjour à tous, grand monde. Et bien sûr, bonjour à la communauté haïtienne. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, le CENI, a annoncé en direct à la télévision publique la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre. C'était vendredi dernier. Eh oui, de l'opposant Félix Tshisekedi avec 38,57% des suffrages. Et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et justement, notre journaliste, collègue rencontré, président du Club de l'information africaine, Louis Magloire Koumayou, il est journaliste. Et il était avec Mélanie Taravan à l'émission « C'est-à-dire ».
Bonsoir Louis Magloire Koumayou.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et vous êtes également président du Club de l'information africaine. Vous allez nous aider à mieux comprendre ce qu'il se passe face en République démocratique du Congo. Après de longues semaines d'attente, on a enfin les résultats de l'élection présidentielle. Et c'est une première historique puisque c'est un membre de l'opposition qui vient d'être élu président du pays. Est-ce qu'on peut parler de réelle alternance démocratique ?
Oui, c'est même la première dans l'histoire de ce pays d'Afrique centrale qui est quand même aussi grand que toute l'Europe occidentale, c'est-à-dire à peu près 4 fois la superficie de la France. C'est dire à quel point le pays est immense sur le plan de la superficie. C'est la première fois parce que Patrice Lumumba avait été élu premier ministre. Il n'était pas président. Kazavubu a été le premier président du pays. Puis rapidement, il y a eu une crise entre les deux. On a eu
Mobutu. On peut rappeler effectivement la succession quand même de gouvernements tyranniques ces dizaines de dernières années.
Oui, et puis il y a eu l'élection finalement il y a 17 ans de Kabila.
Donc d'abord Mobutu, ensuite Kabila père pendant 4 ans et Joseph Kabila dont vous parlez.
Et Joseph Kabila qui a succédé à son père qui avait été tué en 2001. Puis il y a eu la première élection considérée comme démocratique en 2006, qu'il a remporté. Puis il y a eu celle de 2011 et celle-ci qui devait avoir lieu en 2015.
On est bien finalement... d'accord que ces dernières élections, excusez-moi de vous couper, mais ces dernières élections n'étaient pas si démocratiques que cela. Joseph Kabila est quand même resté au pouvoir pendant plus de 17 ans.
Oui, il y a eu un glissement, comme ils l'ont appelé dans le calendrier électoral là-bas, dû à plusieurs raisons. À la fois la commission électorale qui n'était pas tout à fait prête, dû au fait que de nombreuses autres conditions liées notamment au financement de l'élection ne permettait pas de la tenir dans les délais. D'ailleurs, sur la dernière semaine, on l'a vécu également. Et finalement, il a eu lieu avec 3 régions qui n'ont pas pu prendre part au vote, ni pour les législatives nationales, ni pour les législatives provinciales, et encore moins pour la présidentielle.
Alors, on reviendra sur ces régions-là. Mais contre toute attente, là, le nouveau président est donc un candidat de l'opposition. Sa victoire est déjà contestée. Alors, avant de revenir sur ces suspicions de fraude, est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce nouveau président, Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il est populaire en RDC?
Félix Tshisekedi est le fils de Étienne Tshisekedi, qui est l'opposant historique en République démocratique du Congo, parce que c'était l'un des premiers opposants à Mobutu. Puis il a été opposant tour à tour de tous les présidents qui ont succédé à Mobutu, c'est-à-dire les deux, Kabila père et Kabila fils. Donc c'est un fils d'eux, lui aussi.
Et il est connu plutôt, on vient de voir, là, des scènes de liesse quand même en RDC après son élection.
Il a une grosse machine politique pour lui, qui est l'UDPS, qui est un parti relativement bien implanté sur le territoire, historiquement reconnu comme la principale force de l'opposition. Et je pense que ces éléments ont contribué, même s'il avait un déficit de popularité, à faire qu'il arrive à glaner une partie de l'audience qui a voté pour lui. Et puis il y a surtout l'alliance qu'il a tissée avec l'ancien directeur de campagne de Kabila, de Joseph Kabila,
Vital
Kamerhe, qui était président de l'Assemblée nationale et puis président de l'UNC, un autre parti d'opposition.
Alors la France a quand même contesté ces résultats. pas seulement elle, mais en tout cas par la voix de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, il a carrément indiqué que le vainqueur était un autre homme, un autre candidat de l'opposition. Qu'est-ce qui pousse la France à dire qu'il y a eu des fraudes ?
Très concrètement, rien. Elle s'appuie sur presque rien. Elle s'appuie sur le fait que l'Église catholique, la CENCO, la conférence épiscopale, a dit qu'elle avait un nom qui était le nom du véritable vainqueur de l'élection. Mais le fait est que ni la France, ni l'Union européenne, ni aucune organisation d'observation liée à la France n'était présente sur le terrain. Donc, quelque part, je suis tenté de dire que M. Yves Le Drian a manqué une très bonne occasion de se taire.
Alors, pourquoi il dit ça ? Quoi, ça l'arrange pas, ce
candidat ? C'est du paternalisme, c'est du néocolonialisme, c'est tout ce que vous voulez, sauf du respect des règles internationales qui commandent qu'il n'y ait pas d'ingérence dans les affaires intérieures de pays qui sont indépendants.
Et en même temps, il y a eu une ambiance assez particulière ces dernières semaines. Il y a eu des coupures d'Internet, des journalistes qui ont perdu leur accréditation, la radio RFI qui s'est stoppée tout à coup de démettre. Est-ce que vous comprenez que ça ait pu aussi en inquiéter certains ?
Oui, bien sûr. On ne peut pas dire que les conditions étaient optimales. Il y a eu aussi l'incendie, si on doit rappeler toutes les péripéties par lesquelles on est passé. Il y a eu l'incendie dans lequel ont péri une grande partie des machines à voter, que certains considéraient comme des machines à tricher, à voler. Donc tout cela fait que, effectivement, il n'y avait pas une très grande sérénité pour l'organisation des élections. Mais pour un pays qui a subi plus de 6 millions de morts dans une crise très importante, surtout liée à la défiance par rapport à l'autorité d'abord de Mobutu, puis de ses deux successeurs successifs, je pense que par moment, il est important que si on a un signal positif, s'il y a un signal positif, il faut déjà se contenter de cela avant de poser des exigences plus fortes et légitimes d'ailleurs.
Alors, on voit quand même que c'est un tournant pour effectivement le pays, pour sa stabilité peut-être aussi. Certains craignent que ça tourne mal. Aujourd'hui, deux policiers, deux civils ont été tués cet après-midi autour de ces contestations. Justement, est-ce qu'il y a des risques d'embrasement ou pas ?
Je pense que comme dans la plupart des élections, le camp de Martin Fayoulou se sentira lésé. C'est normal.
C'est le candidat de l'opposition
qui est arrivé en deuxième position.
Qui dénonce un putsch électoral.
Et qui dénonce le putsch et que certains considèrent comme le véritable vainqueur de cette élection. Mais n'oublions pas qu'il y a des voies de recours et qu'il y a 10 jours aujourd'hui qui s'ouvrent devant nous pour que cela soit contesté. Donc il faut utiliser toutes les voies légales qui permettent de le faire. Et si ça n'aboutit pas, peut-être qu'on pourra crier au scandale.
Alors, après 17 ans de règne, vous l'avez dit, Joseph Kabila s'est résolu à passer la main, ce qui, effectivement, est une très grande étape dans l'histoire du pays. On va voir avec vous s'il est vraiment prêt à tourner la page. Avant cela, je voulais juste vous montrer une vidéo du nouveau président qui a l'air d'apprécier particulièrement Joseph Kabila. En tout cas, il lui rend hommage, ce qui n'a pas toujours été le cas. On écoute Félix Tshisekedi, le nouveau président de la RDC.
Mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays.
Alors, certains parlent d'arrangements, de négociations en sous-main. Ça vous paraît crédible ?
Tout est possible en politique, les accords publics comme secrets, tout est possible. Oui. Mais au stade actuel des choses, il y a très peu d'éléments qui permettent d'étayer cela, à part ce discours que nous venons d'écouter. Il est intéressant en une chose, c'est qu'il permet au moins de savoir qu'il n'y aura probablement pas de chasse aux sorcières. Mais je pense que le risque, la limite dans l'exercice, c'est qu'il conforte les gens dans l'idée qu'il pourra y avoir une certaine impunité. Je pense que ce serait désastreux pour son image, ce serait désastreux pour sa politique. J'ose espérer, de toute façon, qu'il a mesuré l'ampleur des chantiers auxquels il va faire face et qu'en prenant connaissance de tous ces dossiers-là, il arrivera non seulement à rassurer le président sortant, qui sera probablement pas très loin. Il a donné rendez-vous en 2023. Je ne sais pas si ce sera pour être candidat à la présidentielle.
Mais aussi sur ces dossiers, effectivement, autour de l'impunité.
Il doit régler ces questions. Et puis, il doit rassurer ses partenaires, que ce soit le Rwanda, qui a encore des incursions venant du Nord Kivu, que ce soit le Burundi, qui est aussi exposé aux rébellions qui sont autour de sa frontière.
Oui, on va regarder justement le pays. Il y a 9 pays frontaliers de la RDC. Vous parlez du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan. Est-ce que la région peut être apaisée ou plutôt déstabilisée ? Il y a des risques là-dessus ? Comment ça va se passer ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait plus de risques de déstabilisation d'évasion qu'il n'y en a eu jusqu'à présent. Il y a eu de vrais risques, il y a même eu de vrais problèmes avec le Rwanda notamment, parce que la plupart du temps, les différentes rébellions, il y en a plus d'une centaine hein, qui évoluent dans cette partie de l'est de la RDC, qui faisaient des incursions au Rwanda, voire dans d'autres pays. Je pense que l'idée sera aujourd'hui d'aller attaquer ces rébellions-là, d'en finir avec elles, s'il y a une possibilité de désarmer et de les remettre dans les rangs pour que la justice et puis la paix et que l'autorité aussi de l'État soit rétablie sur l'ensemble.
Écouter est la plus grande des qualités. Écouter les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers, les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Et re-bienvenue à Popoury Show on CIUT 89.5 FM. C'était bien sûr un extrait de cet entretien avec Louis Magloire Koumayou, journaliste président du Club de l'information africaine. Il était l'invité à C'est-à-dire à l'émission La chaîne CNews. Notre collègue Mélanie Caravan. Merci. Merci. Et qui sera grand vainqueur aux prochaines Victoires de la Musique 2019, le 8 février prochain. La scène musicale accueillera la 34e cérémonie des Victoires de la Musique, diffusée en simultané sur France 2 et France Inter. Oui, vous pouvez capter ici à Toronto ou encore faire un petit voyage avec nous à Paris, pourquoi pas. Qui succédera à Aurel San et Charlotte Gainsbourg en tant qu'artistes masculins et féminins de l'année, à Juliette Armanet et Gaël Faye pour les prix des révélations et à dommage de Big Flo et Oli, que j'aime bien, au titre de la chanson de l'année. Les nommés ont été révélés mercredi au Casino de Paris. Et justement, nous allons entendre un extrait de Aurel San. Il était grand gagnant, grand vainqueur l'année dernière. Il était à Toronto en 2018. Oui, les Français l'aiment, mais aussi les francophones, un peu partout, en Europe, au Québec. Il a participé à plusieurs festivals de musique. Victoire de la musique 2018, Aurel San, grand lauréat dans les catégories artistes masculins, l'album de musique urbaine et création audiovisuelle. On écoute un extrait.
Je suis dans le premier Mario. À chaque fois, je crois que j'ai fini. Le jeu, ça repart à zéro. En plus rapide, en plus dur. Je devais être plus mûr. J'ai dû me tromper de futur. J'aimerais retrouver la magie du début. Rien ne fonctionne quand le cœur n'y est plus. Ça fait mal à la fierté, j'ai du mal à l'admettre. Mais j'ai jamais été aussi perdu. Le monde est un PMU. Où n'importe qui donne son mauvais point de vue. Où la télé passe des infos déjà vues. Pendant que la radio joue des sons qu'on n'écoute même plus. J'essaie de trier entre les snobs pointus et les mongols incultes. Je sais plus où cliquer. J'essaie de fit et rester d'actualité. Sans devenir ma propre télé-réalité. Je veux pas rester figé, piégé dans mon personnage comme une prise d'otage à Disney. Mal vieillir comme un vieux punk. Quand tu crois que t'es Bart, mais t'es Monsieur Burns. Je suis pas chez moi dans la capitale, je continue d'écrire sur une ville où j'habite pas. J'essaie d'être un homme bien, mais je suis plutôt moyen. Je crois que je suis juste un génie du mal. Je regrette mes vieux démons, roi dans le mensonge, esclave dans le vrai monde. Vigilant à chaque seconde, si je laisse seul, mon esprit s'égare dans la pénombre. Je pensais me lever un matin, être un homme, sûr que la vie que j'ai choisie est la bonne. Fiable, avoir construit quelque chose de stable. Je suis qu'un sale gosse sur un château de sable. Marre de faire des grands sacrifices pour des petites gloires. Sans même savoir savourer la victoire. Mes nuits sont blanches, mes idées noires. C'est comme chaque fois que j'arrêtais de boire. Et que les journées sont plus que des gueules de bois. Pourquoi tu veux mettre un bébé dans les bras? J'ai déjà du mal à m'occuper de moi. J'essaye d'être droit, de faire des choix. De faire plaisir à tout le monde à la fois. La famille, les amis de la famille.
famille, la famille, des amis, des amis, des amis divers. J'ai un public qui me connaît pas, peu importe qui croit. J'suis toujours à deux doigts du craquage, à deux doigts du pétage de casse. T'étonnes pas si tu me vois marcher dans la rue en pyjama.
Et oui, les poètes du 21e siècle, Aurel San, grand gagnant, victoire de la musique 2018. Il était à Toronto, très très bien aimé. Chers enseignants, enseignantes, à ne pas rater hein, ce programme formidable de ciné franco, dont 7 premières ontariennes, une première canadienne et 2 premières nord-américaines. On en discute tout à l'heure avec, bien sûr, madame très spéciale, très connue dans la planète, sur la planète. Terre, je ne peux pas parler le français comme je peux, comme je veux. Ah oui, elle est à Miami Beach et elle sera des nôtres à 12h30, 12h35 environ. Bien sûr, Ciné Franco, Marceline. Et oui, qui sera grand vainqueur aux prochaines Victoires de la Musique. Mais avant, je vais vous dire qu'il y a bientôt à l'émission un spécial. Croyez-vous que le populisme d'extrême droite est un danger pour la planète ? Quand on parle de ce qui se passe au Brésil, au Venezuela, aux États-Unis, ouais. Alors il y a aussi des gens qui sont anti-amérindiens, anti-immigrants, anti-LGBT, et oui, favorables pour la torture. Si vous souhaitez y participer, mettre votre grain de sel, envoyez-nous un message immédiatement à popourri@cut.fm. Il faut en parler hein, de ces sujets, même si ça fait mal. Nous avons reçu quelques réactions hein, des Algériens qui trouvent qu'il y a des gens racistes en Algérie. Et ouais, c'est pas difficile. Et puis du hip-hop au Sénégal, de la peinture au Zimbabwe, en Afrique du Sud, du cinéma africain à Ouagadougou, New York ou Cannes, de la photographie algérienne à Tourcoing et de l'arc contemporain africain à Douala, Londres ou Paris, des marionnettes à Porto Novo. Quels seront les rendez-vous phares de la culture africaine dans toute sa diversité en 2019? Envoyez-nous vos incontournables rendez-vous à l'adresse popourri@cut.fm et aussi à Toronto, si vous avez des rendez-vous. On pourrait peut-être être un partenaire. On vous invite hein, à participer pour au mois de l'Histoire des Noirs, au mois de février. Ça commence là. Allez, faites vite. Et aussi, si d'ailleurs vous connaissez des têtes d'affiche, des gens qui ont fait des choses extraordinaires, méconnues encore par les médias officiels, traditionnels, envoyez-nous ces noms, coordonnées, et le mois de la francophonie au mois de mars, ça s'annonce très haut en couleur. Si vous souhaitez être partenaire, participer, invité ou encore collaborateur ou bénévole, vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm. Qui sera le vainqueur aux prochaines Victoires de la Musique 2019? Et oui, parmi les prix de cette année figure une nouveauté pour la première fois, la catégorie rap et musique urbaine. Scindé en deux, il y aura donc une victoire de l'album de musique urbaine et une autre pour l'album rap de l'année. Rap, 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 et oui, et comme chaque année, c'est le public qui vote pour la chanson originale de l'année parmi les trois nommés. Le vote est ouvert, allez participer. Voici les nominés pour l'année 2018 à catégorie l'album rap de l'année. Bendero de Moa La Squale, Linto Pédion de Damso, XX5 de Giorgio, catégorie album de musique du monde de l'année, Fenfo de Fatuma Diawara, qu'on connaît bien, Lost de Camélia Jordana, Mo Jodi de Delgress, catégorie album de musique électronique de l'année, Dancehall and the Blaze, Her de Her, Super Wit de Synapson, et bien sûr... Il y aura aussi catégorie spectacle musical tourné au concert de l'année avec Chaka Ponk, Eddie de Pet Crow, Aurel San qu'on vient d'entendre et chanson originale de l'année, Je me dis que toi aussi de Boulevard Désert, Midi sur Novembre de Louane et Julien Doré que j'aime bien, Dadja de Aya Nakamura, catégorie création audiovisuelle de l'année, All Right de Jane, Rêve Bizarre d'Aurel San et Damso, Tout oublié d'Angèle et Roméo Elvis. Donc rendez-vous le 8 février 2019 de 20h à 1h du matin, heure de Paris. Suivez en direct la cérémonie des victoires de la musique sur France Inter. Une soirée présentée par Rebecca Manzoni et Didier Varaude. Que les meilleurs gagnent. Un autre extrait d'une gagnante. Toumani et Sigiti Tiabaté, grand gagnant de Victoire de la Musique. Musique du Monde, catégorie Musique du Monde, c'était en 2018. Victoire de la Musique.
J'entends dans ta cora, parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur, tu bats mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. Money to money. Où s'en sont?
Money to money. Money to money.
J'entends dans ta cora l'enfant qui part en guerre. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat en frère. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies.
Eh oui, Victoire de la Musique, édition 2018, grand gagnant. J'adore cette musique. Regardez tous les gens ici qui sont en train de danser sur la plage. Toumani et Sidiki Diabaté et Fatoumata Diabaté. Lamo Mali, Victoire de la Musique, édition 2018. Catégorie, album de musique du monde. Dans un instant, Miami Beach.
CIUT 89.5 Toronto.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourishow.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, bienvenue à CUT 89,5 FM. Nous célébrons notre 32e anniversaire et mardi à 8h30 du matin, il y aura le tirage de notre grand jeu concours. Et bien sûr, ça s'adresse à tous les donateurs de notre dernière campagne de financement. Un petit voyage quelque part dans le monde. Allez sur notre site immédiatement, www.cut.fm. Qui sait, en écoutant l'émission, vous pourrez être très surpris d'entendre votre nom parmi les gagnants. Et oui, chers amis, professeurs, enseignants, enseignantes, allez, vos cartables, dans un instant, on va vous donner tous les détails très importants pour Ciné Franco Jeunesse 2019. Vos élèves pourront aussi prendre part au concours de la meilleure critique et gagner des prix tels que des DVD, des places de cinéma et des livres pour la jeunesse. On en parle avec la fondatrice de Ciné Franco, Madame la Grande Dame Cinéma, Marceline, dans un instant. Mais on n'est pas terminé avec les vœux et les souhaits de bonne année, un rituel assez étrange pour certaines personnes, y compris notre collègue à TV5, Linda Giger.
Bonsoir Linda. Bonne
Bonsoir
année.
Estelle. Ben, meilleurs vœux, santé, argent, bonheur, tout ce que vous voulez. Hein.
Ben oui.
C'est marrant parce que dans la vie, toutes les deux, on n'est pas vraiment copines, quoi. On se dit à peine bonjour. Puis là, parce que c'est la nouvelle année, on se sent obligé de se présenter nos vœux.
Oui, puis on est en plateau, alors.
Ben oui, voilà, en plus, c'est même pas dans la vraie vie, quoi. Moi, chaque année, ça m'énerve, cette tradition des vœux au travail en France. Pas parce que je trouve pas ça sympathique, au contraire, je trouve ça beau d'offrir ses vœux sincères à un collègue qu'on apprécie, non? C'est plutôt parce que je trouve qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. C'est comme quand on dit « Salut, ça va? » à une consoeur qu'on croise le matin alors qu'on s'en tape complètement de savoir comment elle va. Ben, les vœux, c'est pareil. La plupart du temps, on est sincère avec ceux qu'on connaît bien, mais les autres... Combien de fois, Estelle, depuis le début de la semaine, avez-vous reçu ou présenté des vœux à une personne dont vous vous fichez perdument?
Pas mal de fois.
Ah, ben voilà. Bonne année, Madèle. Plein de bonnes choses. Mouah, mouah. Bonne année. Mais t'es qui, toi? Je peux ta copine? On se connaît pas. On se parle exceptionnellement. On s'est croisés une fois dans un séminaire. On se souvient pas de nos prénoms, mais tout d'un coup, dans un ascenseur, on se tombe d'un bras pour se souhaiter bonne année en faisant mutuellement semblant d'y croire. Et ça peut continuer comme ça du matin au soir, tout le mois de janvier. On a jusqu'au 31. D'ailleurs, c'est drôle, ça. Je fais une parenthèse, parce qu'au Canada et en Suisse, c'est en décembre qu'on présente nos vœux, avant Noël. Ouais. On souhaite joyeuses fêtes et bonne année par la même occasion. Le 1er janvier, chez nous, c'est bonne année, grand nez. Et l'autre répond pareillement, grande dent. Que Dieu te bénisse, grosse cuisse.
C'est pas mal.
C'est entre proches. Hein? C'est très drôle dans le contexte. Puis il y a des fois, tu sais plus. Moment de flottement. Tu sais plus si t'as souhaité bonne année ou pas à Roger. Puis là, il s'en vient, là. Puis d'un seul coup, ça t'échappe. Meilleur vœu, Roger. On ne s'est pas déjà souhaité? Ah, oh, oui? Ah, oh, de toute façon, vaut mieux deux fois qu'une. Hein? Allez, amour, bonheur et surtout, surtout, la santé. C'est le plus important. À nous, Chantal, c'est déjà fait. Hein? Ça va depuis l'autre soir, pas trop la gueule de bois? Je la supporte pas, elle. Et puis, à ceux qu'on ne veut pas embrasser, même pas en rêve. Ah, oh, désolé, Michel, non. Cette année, moi, les bises, c'est un nid à microbes. Hein. Tout le monde a la gastro. Alors, se biser, c'est propager les virus, les bactéries. Donc, moi, j'embrasse pas cette année. C'est pour le bien de tout le monde, surtout le mien. Allez, bonne année. Voilà, bon, avec tout ça, il nous reste plus qu'à attendre la fin du mois en espérant pas faire d'indigestion parce que le pire reste à venir, la galette des rois. Et là, c'est sûr, tout le personnel va être présent. Alors, bon courage et à vous soir.
mesdames, messieurs, nous sommes en train de survoler les plages de Miami Beach and we have someone on the phone because we are losing our francophone services in Ontario. Et pour la raison, nous allons parler franglais aujourd'hui. C'est la langue qui inclut tout le monde, n'est-ce pas? Et nous voyons actuellement Mrs. Marceline, the founder of Cine Franco. She is actually on the beach in Miami on Ocean Drive. Bonjour Marcel, comment allez-vous et comment avez-vous passé le début de l'année?
Bon, écoutez, je vais vous dire bonsoir. Ça, c'est mon mari, Ralph, qui dit bonsoir pendant toute la journée.
Oui.
Alors donc, voilà, bonsoir.
Et oui, nous sommes avec justement Melanie Trump qui est en train de chercher asile au Canada. Et elle m'a dit qu'elle est très heureuse de travailler avec vous. Elle a beaucoup d'argent, hein. Elle a beaucoup d'argent, cette dame. Et elle aimerait venir à travailler parce que son mari risque d'être incarcéré, là. Son mari risque d'être arrêté.
Hein? Je ne veux pas me mêler avec des gens comme ça, hein, qui sont un petit peu... shady, comme on dit, hein.
Ok. It's your right. So, comment allez-vous? Vous avez pris de bonnes résolutions pour l'année 2019?
Non, pas vraiment. Profiter de la vie, être en bonne santé, profiter de mes amis, les aimer très fort. Et voilà.
Alors, nous recevons beaucoup d'appels parce que les gens aiment beaucoup votre voix. Hein. Ils disent que vous devez revenir chez nous à Toronto parce que ce programme pour les jeunes, c'est quand même le programme clou maintenant pour Ciné Franco parce que vous recevez encore un petit peu d'argent de la part du gouvernement pour faire ce programme extraordinaire, hein, pour les jeunes
absolument,
et les écoles.
Et j'en suis extrêmement reconnaissante au ministère de l'Éducation de l'Ontario, à Téléfilm Canada, aux relations canadiennes, au secrétariat des relations canadiennes du Québec, à la TFS, qui est la Toronto French School, à l'Université de Toronto. J'espère ne pas avoir oublié d'autres commanditaires. Bien sûr, nous avons Power Corporation, qui est formidable, ça s'appelle Power Corporation of Canada. Et bien sûr, nous avons le gouvernement français qui nous a donné une très, très belle somme d'argent.
Alors, je reprends le micro parce qu'elle est allée de l'autre côté en ce moment. C'est Eric Adair qui vous parle. Bonjour Marcel. Et justement, vous avez toute une panoplie là de films très intéressants. Ça parle de diversité. Ça parle justement le premier film qui s'appelle Wale, que je trouve très bien. Ça tombe en mille avec ce qui se passe en Algérie. J'en ai parlé un petit peu avec la nouvelle Miss Algérie. Et justement, ce film, c'est un ado de 13 ans qui... Alors, parlez-nous un petit peu de ce film,
oui,
parce que c'est très intéressant au niveau de la diversité culturelle.
Tout à fait. Justement, on a essayé avec notre programme de faire cette diversité culturelle. Wale, c'est aussi la célébration au mois de février de l'histoire des Noirs. Et Wale, c'est l'histoire d'un gamin de 13 ans qui est un peu délinquant, que son père ne peut plus contrôler et son père l'envoie dans sa famille au Burkina Faso. Et là, il commence à comprendre les valeurs du travail, de l'honnêteté, de la famille. Et c'est un très, très beau film de voir cette transformation de cet enfant délinquant qui va absorber les valeurs de la famille traditionnelle et des valeurs africaines qui sont en fait des valeurs universelles. Nous avons également Good Luck Algeria, qui est également pareil sur les préjugés qu'on se fait. C'est un jeune homme algérien, mais né en France, qui va essayer de faire la compétition de ski aux Jeux Olympiques au nom de l'Algérie. Évidemment, on ne connaît pas l'Algérie comme le pays de ski, mais il va essayer pour donner à la fois, pour essayer de promouvoir son affaire de ski. Et là encore, on peut voir l'Algérien né en France être plein de avoir quelques ou souffrir des préjugés des Algériens d'Algérie et le contraire. Mmh. Alors c'est vraiment très très intéressant et nous avons un très beau film qui s'appelle Funan et qui lui parle des Khmers rouges et du Cambodge en 1975 et qui parle de comment c'est une animation extraordinaire sur comment on déshumanise une société et dans ce cas par les Khmers rouges.
Alors d'ailleurs les gens peuvent aller sur le site de Ciné Franco pour avoir des renseignements, on verra tout ça là dans l'instant, mais pour l'instant un de nos coups de cœur que nous aimerions partager les sons et lumières qui sait par la radio. Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre 2018. Et Belle and Sebastian, Friends for Life. C'est un film que je trouve formidable aussi hein, pour les jeunes.
C'est un très, très, très beau film sur l'amitié, sur le courage, où l'on montre également la solidarité. Et bien sûr, il y a la beauté de l'amitié entre une chienne et le petit Sébastien, qui n'est plus petit parce que c'est le troisième volet et le dernier volet. Donc le petit Sébastien a 12 ans maintenant, c'est un préadolescent. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est l'époque, oui. 1948. Donc on va un petit peu encore comprendre l'après-guerre, on va voir des costumes, on va voir une solidarité justement qui va exister entre tout le monde. Et puis il y a les aventures. Alors justement, ce festival, cette programmation est vraiment sur les aventures. On a Divili à Paris, qui est une animation, une petite merveille de Michel Oslo, avec un côté à la fois conte, mais aussi un côté sérieux sur l'esclavage en fait féminin et vraiment une révolte de la part de Michel Oslo sur la façon dont on traitait les femmes dans les années 1900 et maintenant également dans certaines sociétés. On a Rémi sans famille qui également va parler d'aventures de deux héros à travers la France et en Angleterre, un mélange un petit peu des Misérables et de Oliver Twist. Et puis on a un film de science-fiction, ou plus exactement un film catastrophe qui s'appelle « Dans la brume », franco-canadien, réalisé par Daniel Roby sur notre obsession en ce moment, bien sûr, c'est le réchauffement de la Terre, c'est le changement de climat.
Alors, dans un instant, nous revenons avec la programmation. On écoute un extrait de Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre, prévu mercredi 20 février à 11h, première ontarienne.
Sébastien, on avait dit pas dans la chambre. Hein.
Je sais pas du tout comment ils sont arrivés ici. Il est où l'autre?
Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard à l'école.
Le chalet de César, tu connais?
Je peux vous emmener si vous voulez.
Vous avez déjà regardé Joseph dans les yeux? Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort.
Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne.
Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous?
Cette chienne est à moi.
Les chiens, ils sont à personne. Ils suivent ceux qu'ils aiment.
Ah, qu'on parle des chiots aussi.
Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre prévu pour mercredi 20 février à 11h. C'est l'histoire de Belle, mère et quatre petits. C'est l'histoire de Sébastien à la frontière de l'adolescence qui hésite à grandir, que j'aime bien. Un autre film aussi qu'on aimerait donner un extrait, un avant-goût comme on dit à tous ces jeunes, ces professeurs, ces enseignants qui nous écoutent pour le mettre vraiment un peu dans l'esprit de la salle de cinéma. Hein. Alors il faut en profiter. Alors le 26 février, un de nos coups de cœur à 11h toujours, c'est Gaston Lagaffe.
Bon, ma gaffe, oui.
On écoute un extrait. Première
Bonjour à tous. Gaston est arrivé.
Ah non, jamais avant midi. Il dit que s'il arrive trop tôt, il est obligé de faire une sieste. Et là, ça bouleverse tout son emploi du temps.
Faut pas vous tuer à la tâche.
C'était pas prévu.
C'est la moitié du nouveau stagiaire, il est trop chou.
Personne ne se balade dans un bureau.
Et oui, ça s'annonce, hein, beaucoup d'action et beaucoup d'humour.
Beaucoup d'humour, comme Bécassine ou aussi les aventures de Spirou et Fantasio. Ouais. Ce sont des adaptations, bien sûr, de bandes dessinées. Alors, oui, c'est magnifique.
Et justement, vous avez parlé déjà, c'est Good Luck Algeria, le 4 mars. Alors, ça dure jusqu'au 6 mars, hein, du 19 février, si ma mémoire est bonne. Vous avez ma mémoire fléchie, un sachant, ses chaussettes sur une souche sèche.
Oh là.
Oui. Le lundi 4 mars, un autre film encore. Et d'ailleurs, il y a une grande communauté d'Algériens dans la région de Toronto. Et ce que je trouve formidable, madame, monsieur, c'est que Marceline entre dans la danse en plein fouet pour 2019 pour poursuivre sa mission, son engagement à la diversité. Et on le trouve pas seulement ciné-franco grand public, mais aussi chez les jeunes. Et c'est là qu'on doit justement former la mentalité des jeunes, l'éducation des jeunes, en chanson, en musique, ciné, parce que c'est une façon, ils sont sur leur tablette, on le sait, ils regardent la télé tout le temps, donc ils ont cette influence du monde extérieur. Et donc, pour avoir cette tolérance zéro, comme on dit, face à l'intolérance, je pense qu'il est important, et vous avez bien fait, de mettre une diversité, parce qu'il y a un article récemment que j'ai lu, à Montréal, ils ont des graves problèmes avec les Syriens. Comme vous savez, le Canada a accepté, a donné asile politique à beaucoup de familles syriennes. C'est bien beau de les accueillir, mais est-ce que la communauté d'accueil, le pays d'accueil est prêt à les insérer, les intégrer et leur offrir une possibilité, une deuxième chance? Et il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Et ça, c'est avec les crises migratoires qu'on connaît. Je pense que là, le cinéma, vous pouvez voir que les acteurs sont de différentes communautés, cultures, et ça aide aussi à comprendre le monde d'aujourd'hui.
Tout à fait. Le cinéma, c'est un merveilleux outil, à la fois d'être amusé, si vous voulez, d'être instruit, d'avoir une interaction à la fois émotionnelle et même intellectuelle, parce que quand on sort d'un film, surtout d'un beau film, on est marqué par certaines scènes, par certains dialogues, par certaines images, et on veut souvent les partager, on veut en discuter, et c'est ça, la vie d'un film, ce n'est pas seulement pendant qu'on le voit, mais c'est après. Les impressions, comment bien des personnes ont été marquées dans leur conduite, des fois dans leur pensée, par des films.
Exactement.
Et c'est ça la richesse du film.
Oui. Alors, jolie réflexion sur la binationalité, un film à voir absolument avec vos étudiants. Good Luck Algeria, lundi 4 mars à 11h, une première ontarienne.
Oui, et puis...
José, c'est mon fils. C'est lui qui fait les skis pour le Suédois.
Alors, le Finlandais.
Un Suédois, chérie.
Bon, enfin, c'est signé ou pas?
Ouais.
Mais c'est génial.
Ouais. Bonjour tout le monde.
Faut que je te vois, là.
Johansson, les JO, il fait pas.
Il s'est blessé?
Non. Nous, on les fait pas avec lui.
Je suis en fait. La boîte est en train de couler.
Ah oui, les comiques de situation servis avec des dialogues brillants, joués par des comédiens formidables. À voir absolument. Comment avez-vous fait pour aller dénicher ces films? C'est quoi votre secret?
Là. Je passe ma vie.
Pauvre Ralph, pauvre Mr. Ralph Lean. We have a job for you here. Come and help us. On va laisser Mars. Alors, du 19 février au 9 mars, vous pouvez aller sur le site cinefranco.com en anglais et en français, s'il vous plaît. Ou encore, si vous voulez avoir des renseignements, vous pouvez envoyer un courriel directement à bernard@cinefranco.com si vous avez des questions, des demandes. Comment ça se passe justement pour un professeur, un enseignant qui nous écoute en ce moment? Est-ce qu'il faut avoir une permission spéciale du ministère de l'éducation de son école? Comment faire pour justement faire partie de la danse de Ciné Franco Jeunesse?
C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui va choisir un film. Il va probablement demander la permission.
Mais il faut demander la permission, bien sûr.
À son principal ou à son. Je pense que c'est à son principal. Et là, on discute justement de la possibilité de la classe. De se rendre à voir un film. Une de mes amies et enseignante m'avait dit que elle voulait emmener voir sa classe, voir Rémi sans famille. Et dans l'école, on lui a dit non, je ne pense pas que les élèves vont comprendre le film. Donc elle m'a envoyé justement un message. Elle m'a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux et voilà le profil un peu de mes étudiants, de mes élèves, peux-tu me conseiller autre chose? Et personnellement, je lui ai conseillé Gaston Lagaffe justement parce que c'est très visuel et c'est beaucoup plus facile à comprendre. Peut-être que effectivement Rémi sans famille pour ses élèves qui apprennent le français cadre, n'est-ce pas? Donc c'est un français qui est beaucoup plus schématique, si j'ose dire, que bien sûr l'immersion ou le français langue maternelle ou intensif.
Et madame, monsieur, en participant à Ciné Franco Jeunesse à 2019, vos élèves pourront également prendre part au concours de la meilleure critique et gagner des prix tels que des DVD, des places de cinéma et des livres pour la jeunesse. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui aimerait gagner un billet, peut-être je pourrais arranger ça avec Marcel. N'hésitez pas à envoyer un courriel à Bernard Le Cerf, à notre grand ami bernard@cinefranco.com ou aller sur le site www.cinefranco.com en anglais et en français. Et là, vous allez vraiment avoir le goût du cinéma pour la jeunesse, commencer l'année 2019 à bon pied, bon œil avec, c'est le cas de le dire, hein, bon pied, bon œil pour le cinéma.
Exactement.
Et justement, tout ça se passe au Canada Square Famous Players Cinema, 2190, pas tellement loin de Yonge et la rue Eglinton, métro Eglinton, dès le 19 février jusqu'au 6 mars, allez célébrer le cinéma international grâce à Marceline. Et justement, là, nous sommes actuellement près de chez vous. Nous sommes près de chez vous. Nous avons des artistes, des DJ.
Oui,
vous ne voyez pas? On est au Club Le Palace sur Ocean Drive. On est sur Ocean Drive. Venez prendre le Tea Dance Party à partir de 14h, donc juste après l'émission. Je remercie beaucoup Monsieur Carole Jolin, que peut-être vous avez écouté, notre nouveau collaborateur et correspondant haïtien Obed Lamy. Bonjour Touban Dimoun Kikos Créole, DJ Devera, que vous connaissez sans doute, Sloana Ballant, RFI, TV5, France 24, CNews, Mélanie Taravant, Louis Magloire Koumayou, journaliste, Linda Giguère, elle est marrante comme tout, et bien sûr Rainy Rainbow qui était à la Maison Blanche avec Monsieur Trump pour nous. Et donc c'était vraiment une émission tour du monde, hein, en 2 heures.
Et alors, bonne année quand même. Hein.
Et merci à Ciné Franco. Comment ne pas remercier Marceline, Ciné Franco? Qu'est-ce que vous allez faire là? Détente auprès de la piscine, la plage?
Je vais déjeuner sur la rue Collins.
Écoutez, venez nous joindre. Nous sommes au Palace, c'est 2100 Ocean Drive. Et puis, consommation sur nous, hein. Vous demandez le nom de la radio et puis tout est gratuit, ok? Alors,
super.
Je vous remercie et puis Ralph aussi peut venir, hein, avec des pantoufles, sans mitaines, hein, parce qu'il fait chaud là, actuellement.
Oui.
Allez, je vous dis au revoir et puis bravo à Ciné Franco et toute l'équipe, tous ceux qui nous écoutent et bravo Ciné Jeunesse. On vous retrouve bientôt, hein? J'espère que vous allez passer par l'aéroport avec sans problème parce que il y a le shutdown.
Je sais.
Where's my wall? I need a wall. Ciao, Marcel. Allez, au revoir.
Happy birthday, dear mom. يا سبحان